brève d'info. Allez, on se retourne vers Michel Favret. Hein. On vous présente plus Michel Favret parce que vous venez tous les mois nous présenter vos chroniques astro. Vous faites partie de l'association Constellations et Galaxies. Allez, juste quelques petits mots pour ceux qui nous rejoindraient sur O2 Radio de cette association.
Donc c'est une petite association, comme je dis souvent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de membres, qui travaille dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement en astronomie, avec un planétarium qui se promène dans toute la région, hein, très largement, en gros de Bordeaux à Brive-la-Gaillarde et de Angoulême à Villeneuve-sur-Lot. Alors bien sûr, la plus grosse partie de l'activité est scolaire, hein, donc en ce moment, pendant les vacances, c'est un peu plus calme. On a quand même quelques centres de loisirs qui nous font venir pour montrer le ciel aux enfants.
Avec la possibilité pour les gens qui nous écoutent, ils font partie d'une association, de la réserver ?
Il n'y a pas de problème, il suffit d'aller sur notre site web, hein, www.constellationsetgalaxies.org, et on trouvera dans la partie planétarium toutes les informations, la place qu'il faut pour l'installer, les coûts de déplacement et d'animation liés à ce genre de manifestation.
Bon, alors la présentation est faite, on va parler de cette 34e chronique astro. Et là, cette fois-ci, donc, on parle particulièrement de la nuit des étoiles, hein, la 27e.
Voilà, les 27e nuits des étoiles, parce que depuis quelques années, c'est sur trois nuits, hein, et pas une seule, justement en raison de l'aléa météo, c'est un peu plus sûr sur trois nuits. Donc comme tous les ans, des milliers de bénévoles accueilleront le public pour montrer les beautés du ciel avec leur télescope, dans le cadre de cette manifestation nationale, hein, c'est dans la France entière, très populaire, créée en 1991 par l'AFA, l'Association Française d'Astronomie, qui est la fédération regroupant la plupart des clubs d'astronomie de France. Nous en avions déjà parlé en juin, en fait, mais maintenant, c'est tout proche, hein, puisque c'est après-demain. Les dates vont du 28 vendredi au dimanche 30 juillet, en raison de la Lune qui est trop grosse début août. Hein. Souvent, les nuits des étoiles, c'est plutôt début août. Alors, pour toute la France, ce seront plus de 450 animations qui seront proposées par plus de 250 associations et qui attendent probablement plus de 100 000 participants comme en 2016. On trouve tous les détails sur le site en ligne de l'AFA, hein, c'est www.afastronomie.fr, et on trouvera le choix Nuit des étoiles dans le menu événements du site. On y trouve une carte de France indiquant tous les lieux où se dérouleront ces animations. Alors j'ai regardé pour la région de Bordeaux. Merci. L'association AG33, Astronomie Gironde 33, dont la présidente Corinne Yaya était notre invitée le 28 juin. Donc eux, ils seront avec Cap Science le vendredi 28 à Mérignac, sur le site de Côté Science Air et Espace. Puis le samedi 29 à Saint-Vivien de Blaye. Le dimanche 30, ils iront jusque dans les Landes, à l'écomusée de Marquèze à Sabre. Mais là, il faut réserver auprès de l'écomusée. Et ils joueront même les prolongations le vendredi 11 août, hein, donc en dehors des dates officielles, sur leur site habituel du mémorial de la ferme de Richemont à Saucat. De son côté, Jal Astronomie sera à Saint-Médard-en-Jal la soirée du vendredi 28, puis à Martignas en Jal le samedi 29 et à Pessac le dimanche 30. Et là, ce sera l'après-midi et le soir, avec des animations qui commenceront par l'observation du soleil. La Société Astronomique de Bordeaux et Jeunes Sciences Bordeaux seront le samedi 29 à Quinsac, au domaine viticole du château de Bellevue, pour une soirée qui commencera par un pique-nique, mais il faut réserver auprès du site. Il y aura aussi une animation à la Maison de la Nature à Gradignan, la soirée du vendredi 28, et aussi un peu plus loin de Bordeaux, du côté de Libourne, plus précisément à Vers, avec le club Vega de la Lyre. Il y a aussi des animations prévues du côté du bassin d'Arcachon, pour ceux qui iraient du côté de l'océan pour le week-end.
Ils nous écoutent, hein, d'ailleurs.
Mais je les laisse trouver le détail sur le site de l'AFA, je ne peux pas tout passer en revue. Pour ma part, je serai bien sûr en Dordogne avec mes collègues du club Astro 24 du Mussidanais, en espérant une bonne météo dès vendredi pour accueillir une bonne centaine de personnes comme en 2016. Malheureusement, j'ai regardé quelques sites ce matin, la météo pour le moment est relativement incertaine pour le week-end, aussi bien en Dordogne que dans le Bordelais, donc on ne sait toujours pas comment on pourra regarder le ciel.
Alors ça fait quand même beaucoup d'animation, alors qu'est-ce qu'on peut y voir pour cette nuit des étoiles ? Alors s'il fait beau, j'imagine plein de choses.
Alors avant de regarder dans les télescopes, il y a déjà tout ce qu'on peut voir à l'œil nu, comme les constellations du ciel de l'été, la Voie lactée, la Lune, hein, il y aura un gros croissant de Lune, et les planètes Jupiter et Saturne. Et aussi quelques phénomènes liés aux satellites artificiels, comme par exemple le passage de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et selon les endroits, des flashs dus au reflet du Soleil sur les gros panneaux solaires de certains satellites, par exemple ceux du réseau de communication Iridium. À Mussidan, par exemple, nous en aurons un très brillant, plus brillant que Jupiter, vers minuit et demi. Mais cela dépend beaucoup de l'endroit où l'on se trouve, hein, ce ne sera pas partout pareil. Une fois que la Lune sera couchée, après minuit, vendredi, on pourrait observer pas mal d'étoiles filantes jusqu'à 20 à l'heure, selon les spécialistes, parce que ce sera le maximum des Delta Aquarides, un essaim un peu moins connu que les Perséides qu'on observe généralement aux nuits des étoiles quand elles sont en août. Avec les télescopes, en début de soirée, quand le ciel n'est pas encore totalement noir, on observera sûrement d'abord les reliefs de la Lune, Jupiter et ses satellites, Saturne et ses anneaux, et un peu plus tard, quand la nuit sera bien installée, on passera aux amas d'étoiles, aux nébuleuses, aux galaxies, ce que dans le jargon des astronomes amateurs, on appelle le ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui est plus loin que le système solaire.
Donc beaucoup de choses à voir pour cette nuit des étoiles. Alors là, on va parler un petit peu d'actualité, puis une actualité un peu particulière. On parle de E.T., téléphone sur Terre.
Voilà. Certains auditeurs auront peut-être entendu comme moi l'annonce dans les médias de la détection d'une séquence radio inhabituelle provenant d'une étoile proche et qui amenait à se demander s'il ne s'agissait pas d'une émission extraterrestre. J'ai donc essayé d'en savoir un peu plus. Et pour ce qui concerne l'étoile, elle se nomme Ross 128, ce qui veut dire tout simplement qu'elle est la 128e dans le catalogue d'environ un millier d'étoiles établies dans les années 1925 à 39 par l'astronome américain Frank Elmore Ross, qui s'intéressait plus particulièrement aux étoiles se déplaçant rapidement dans le ciel. Alors, je sais pas si on peut l'entendre à la radio, mais je mets des gros guillemets autour de rapidement, car il faut relativiser, hein. Les étoiles sont tellement loin de nous que leurs mouvements sont totalement indétectables à l'œil, et on peut considérer qu'elles sont fixes dans le ciel, ce que les anciens appelaient la sphère des fixes, et donc elles dessinent toujours les mêmes constellations. Mais en réalité, tout bouge dans l'espace, y compris les étoiles, notamment à cause de la rotation de notre galaxie, la Voie lactée. On peut donc mesurer ces très petits déplacements ou leur vitesse avec les grands télescopes. Bien entendu, celles qui se déplacent le plus vite sont souvent les plus proches de nous. Un peu comme quand on voit défiler le paysage en roulant sur l'autoroute. Les arbres au bord de la chaussée filent bien plus vite qu'un clocher plus lointain, encore plus lentement pour des montagnes qui sont à l'horizon. Donc c'est le cas de Ross 128 qui n'est qu'à 11 années-lumière de nous, autant dire que c'est une voisine à l'échelle de la galaxie puisqu'il y a à peu près une dizaine d'étoiles seulement aussi proches que ça, celle que nous voyons dans le ciel étant la plupart du temps à des centaines ou des milliers d'années-lumière.
Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier du coup ?
Alors dans le classement des étoiles, elle est rangée dans la catégorie des naines rouges, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très chaude car sa lumière tire vers le rouge. Il fait dans les 3000 degrés à sa surface au lieu des 6000 degrés du Soleil, donc nettement moins chaude. Et elle n'est pas très grande, à peu près 5 fois plus petite en diamètre que notre Soleil. Comme je l'avais déjà évoqué en février, lors de l'annonce de la découverte de 7 exoplanètes du système TRAPPIST-1, les astronomes se sont lancés dans la recherche de planètes autour de ces petites étoiles froides, hein, si on peut dire, pour des raisons qui seraient trop longues de répéter aujourd'hui. C'est le cas de Ross 128 qui était observé ce printemps parmi d'autres étoiles par le grand radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico, un radiotélescope qui est bien connu pour avoir servi de décor à plusieurs films ou séries, dont par exemple James Bond GoldenEye ou Contact avec Jodie Foster dans les années 90. Avec ses 305 mètres de diamètre, son antenne occupe en fait tout le fond d'une dépression naturelle au milieu des collines. Pour être honnête, jusqu'à cette annonce, j'ignorais que la recherche d'exoplanètes se faisait aussi avec des radiotélescopes, car c'est surtout dans le domaine de l'optique visible, donc avec des télescopes, qu'on en a trouvé jusqu'à présent. C'est dans la réception des signaux radio provenant de Ross 128, le 12 mai dernier, que se trouve une séquence bizarre d'environ 10 minutes qui a surpris les astronomes. Elle semble former une suite de signaux ayant une certaine structure, c'est-à-dire qu'il pourrait s'agir d'un signal artificiel et non pas naturel.
Donc à défaut de trouver sa planète, on a peut-être détecté un message de E.T. alors ?
Oi, alors c'est effectivement la conclusion un peu hâtive qu'en tirent certains médias, même s'ils l'expriment au conditionnel par précaution. Mais ce n'est pas illogique de rechercher des signaux radio artificiels provenant d'une civilisation extraterrestre. Et c'est l'une des méthodes employées par le programme SETI, notamment avec les grands radiotélescopes. SETI, hein, c'est un acronyme qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, hein, donc recherche d'intelligence extraterrestre, est un programme américain démarré dans les années 60 et notamment soutenu par le célèbre astronome Carl Sagan. L'idée est très simple, que ce soit volontaire ou involontaire, une civilisation technologique comme la nôtre émet des signaux radio qui se propagent très loin dans l'espace. Par exemple, nos toutes premières émissions de radio qui remontent aux années 1910 ont déjà parcouru une centaine d'années-lumière et ont donc touché des milliers d'étoiles et donc peut-être de planètes qui tournent autour d'elles. Nos premières émissions de télévision, elles sont déjà parvenues à une soixantaine d'années-lumière. Si l'idée de se mettre à l'écoute pour détecter une éventuelle civilisation extraterrestre est simple sur le principe, elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre en pratique. D'abord, parce que le signal émis devient de plus en plus faible au fur et à mesure qu'il s'éloigne de sa source. 4 fois plus faible à chaque fois que la distance double, ce qui le rend très vite très difficile à capter, sauf avec de très grandes antennes, hein, comme par exemple celle des radiotélescopes. Ensuite, on ne sait pas sur quelle fréquence il faut écouter, et il y en a presque une infinité, tout comme des endroits dans le ciel où il faut pointer les antennes pour être dans la bonne direction. Donc même les plus enthousiastes des supporters du programme SETI admettent qu'il faudra un grand coup de chance pour détecter un jour quelque chose. Et c'est peut-être ce qui s'est produit en mai avec le signal structuré et répétitif, donc probablement artificiel, provenant de Ross 128. La question reste maintenant d'être sûr qu'il s'agit bien d'un signal extraterrestre. En effet, les radiotélescopes sont pollués par tous les signaux émis autour d'eux dans des tas de fréquences différentes. Les émissions de radio ou de télé, les téléphones cellulaires, les parasites des moteurs électriques, etc. Même si tout est fait pour filtrer ces signaux sans intérêt, le premier réflexe quand on reçoit une séquence qui semble artificielle, c'est d'éliminer toutes les causes humaines possibles. Actuellement, les scientifiques cherchent donc à vérifier que l'émission a bien son origine vers Ross 128, notamment en utilisant d'autres radiotélescopes dans le monde pour éliminer toute possibilité de parasitage local, y compris un satellite qui aurait pu passer dans le champ de l'antenne à ce moment-là. Le problème, c'est de réussir à détecter de nouveau ce même type de signal. Puis, ils essaieront de comprendre s'il n'existe pas une explication naturelle à cette émission bizarre, comme par exemple une instabilité de l'étoile provoquant des éruptions périodiques à sa surface. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, lors de la détection des premiers pulsars, qui sont des étoiles tournant très vite en émettant des sortes de bips radio, on avait déjà cru à des signaux artificiels en raison de leur régularité. Il faut donc attendre encore avant de conclure que c'est E.T. qui, volontairement ou non, nous aurait fait un petit coucou. D'ailleurs, je crois que des dernières nouvelles, il semblerait que l'hypothèse d'un signal venant d'un satellite artificiel est en voie d'être retenue par les scientifiques. Et pour refroidir un peu les ardeurs des auditeurs qui se passionnent pour ce genre de découverte, je rappelle qu'avec nos connaissances actuelles et nos technologies, un engin envoyé vers Ross 128, et je ne parle que d'une petite sonde et pas d'une grosse capsule habitée, mettrait des dizaines de milliers d'années pour l'atteindre. Donc c'est pas demain qu'on fera coucou à E.T., qu'on ira le rencontrer.
Et est-ce qu'on connaît des planètes où il serait possible que E.T. habite ?
Alors, j'ai déjà parlé ici des exoplanètes et des possibilités d'une vie extraterrestre, mais je reprends aujourd'hui ce sujet, les terres habitables, car c'est le thème qu'a choisi l'AFA pour la 27e édition des Nuits des Étoiles. Ils ont préparé avec des astronomes professionnels une présentation sur ce sujet, disponible pour toutes les structures qui participent à la manifestation, mais il n'y a aucune obligation de s'en servir. Par exemple, nous, à Saint-Médard, de Mussidan, nous la projetterons de vendredi soir, si la météo ne permet pas d'observer. Et je me suis forcément un petit peu inspiré pour cette chronique. Alors tout d'abord, un petit retour historique, car ce n'est pas d'hier que les hommes envisagent la possibilité de vie en dehors de la Terre. Dans une lettre à Hérodote, Épicure évoque une infinité de mondes 3 siècles avant Jésus-Christ. Puis Lucrèce pense possible une vie sur d'autres terres au 1er siècle avant Jésus-Christ dans son livre « De Natura Rerum », de la nature des choses. Puis Plutarque qui pense que la Lune pourrait être habitée. Je ne vais pas citer toutes les références, il y en a plein, mais on ne peut pas faire l'impasse sur Giordano Bruno, qui affirmait la pluralité des mondes habités à la Renaissance, et elle a malheureusement été brûlée vive pour ça le 17 février 1600 au Campo dei Fiori à Rome. Ni, en plus c'est local, le célèbre Michel de Montaigne, qui dans ses essais se demandait pourquoi Dieu aurait-il créé seulement une seule terre. Et encore bien d'autres astronomes ou philosophes. Pour ma part, je pense toujours à l'écrivain H.G. Wells, qui est à l'origine de notre présentation des extraterrestres mal intentionnés très fréquents en science-fiction, avec ses martiens de son roman « La guerre des mondes », publié en 1898, et qui était basé sur de véritables observations astronomiques, malheureusement fausses, quand on avait cru voir au 19e siècle des canaux sur Mars. Mais où trouver une éventuelle vie dans l'univers ? Faute d'un autre exemple que celle qui existe sur Terre, les scientifiques recherchent des endroits où les mêmes formes de vie pourraient exister. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'on s'attend à trouver une vie similaire à celle qui existe ici, mais seulement qu'on ne retient que les endroits où l'on estime que la vie pourrait exister, puisque celle que nous connaissons pourrait s'y développer. Il existe des critères très simples, comme par exemple la température. Il ne faut pas qu'il fasse très chaud, comme à la surface des étoiles, où la température se mesure généralement en milliers de degrés, 6000 degrés environ à la surface du Soleil. Ni trop froid, comme dans les espaces interstellaires. Dès qu'on est très éloigné des étoiles, elles ne nous réchauffent plus du tout. Parmi les objets célestes, les meilleures candidates sont les planètes, ou ce qui revient au même, leurs satellites. Il ne faut pas oublier que certains satellites de Jupiter ou de Saturne, par exemple, sont plus gros que la planète Mercure. Alors qu'il y a 30 ans, on ne connaissait que les 8 planètes du système solaire, on a depuis trouvé dans les 3500 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil, et il y en a encore 4500 de plus qui restent à confirmer. On les a détectés, mais on n'est pas encore tout à fait sûr. Donc si je fais le total, on est autour de 8000 exoplanètes connues aujourd'hui. Mais en fait, statistiquement, comme on en a trouvé autour de la plupart des étoiles que l'on a étudiées, cela conduit à penser qu'il y a sans doute plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie, donc la Voie lactée, des centaines de milliards de planètes.
Alors comment on a fait pour trouver toutes ces planètes ?
Alors il faut comprendre que sauf pour une seule exception très particulière, il est complètement impossible de les voir, même dans les plus grands télescopes. La différence de luminosité est trop énorme entre une étoile et une planète. Par exemple, Vénus, qui est la plus brillante des planètes visibles dans le ciel, pour nous, est environ 500 000 fois moins brillante que le Soleil. Et encore, vue de la Terre, ce qui est très proche. Pour les étoiles qui sont tellement loin de nous, c'est pratiquement impossible. Et même si cette image est encore très en dessous de la réalité, ce serait un peu comme vouloir distinguer la petite flamme d'une bougie placée à côté d'une lampe surpuissante d'un phare marin de l'autre côté de l'océan Atlantique. On n'a donc pas pu voir ces exoplanètes, mais on a pu détecter leur présence en étudiant les étoiles autour desquelles elles orbitent. Il y a plusieurs méthodes, mais deux ont donné la plupart des résultats jusqu'à présent. La première est celle qu'on appelle des vitesses radiales. Une étoile est tellement énorme par rapport aux planètes qui l'entourent qu'on imagine souvent comme un point fixe autour duquel orbitent les planètes. Mais en réalité, le balai des planètes fait un peu bouger l'étoile, surtout les plus grosses comme Jupiter pour le Soleil par exemple. Pour le comprendre, on peut prendre l'image du patineur qui fait tourner sa partenaire autour de lui. S'il ne s'inclinait pas en arrière pour compenser, il ne pourrait pas rester en équilibre. Du coup, pour un spectateur l'observant des gradins, sa rotation le fait alternativement s'approcher puis s'éloigner. En décomposant la lumière des étoiles sous forme de spectre, on peut détecter ce genre d'oscillation qui indique la présence d'une planète, souvent une grosse planète. C'est ainsi que le 6 octobre 1995, un petit cocorico, avec le télescope de 2 mètres de l'Observatoire de Haute-Provence en France, une équipe suisse de l'Observatoire de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, ont détecté la toute première exoplanète autour de l'étoile 51 de la constellation de Pégase. Du coup, on l'appelle 51 Pégasi B. Mais c'est l'autre méthode qui, avec des télescopes spatiaux comme Kepler de la NASA ou Coro de l'ESA, a permis de détecter le plus grand nombre d'exoplanètes jusqu'à maintenant, environ les 2/3. C'est la méthode des transits, qui consiste à mesurer la lumière qui nous provient des étoiles, et quand le petit disque noir de la planète vient s'interposer devant, un peu comme une mini-éclipse, ce qui n'arrive que dans quelques pourcents des systèmes planétaires bien orientés par rapport à la Terre, on constate une petite baisse de luminosité, avec une courbe en U si on trace l'évolution de la luminosité au fil du temps. Connaissant les caractéristiques de l'étoile données par l'analyse de sa lumière, c'est-à-dire sa température, sa masse et donc sa taille, cette courbe nous fournit beaucoup d'informations sur la planète. La profondeur du U nous donne sa taille, car plus une planète est grosse, plus elle masquera de lumière de l'étoile. Par exemple, pour des extraterrestres très loin de nous, qui viendraient observer le Soleil, le passage de Jupiter réduirait la luminosité du Soleil de 1%, alors que la Terre, ce serait seulement 0,01%. La largeur du U nous donne le temps qu'il a fallu à la planète pour traverser tout le diamètre de l'étoile. Donc une idée de sa vitesse, ce qui avec les lois de Newton et de Kepler permet de calculer à quelle distance elle se situe de l'étoile.
Est-ce que ces planètes sont habitables ?
Alors c'est très difficile à savoir, mais on peut déjà dire celles qui ne le sont probablement pas. En effet, la vie comme nous la connaissons sur Terre ne pourrait pas survivre à l'énorme gravité des planètes géantes comme Jupiter, ni aux très fortes pressions qui règnent dans leur atmosphère. Sans compter que ces planètes gazeuses ne peuvent se former que très loin de leur étoile, donc à des températures très basses. Or, la plupart des exoplanètes découvertes à ce jour sont des géantes. Près de 2/3 ont des tailles analogues à Jupiter ou Neptune. La vie s'accommoderait plus de la surface de petites planètes telluriques, c'est-à-dire rocheuses, comme la Terre ou Vénus. Mais pas trop petites non plus, comme Mercure ou Mars, car sinon leur faible gravité ne leur permet pas de conserver leur atmosphère. Élément qui est très important car l'atmosphère régule la température à la surface de la planète. Et sa pression permet éventuellement l'existence d'eau liquide, donc d'océan, où l'on pense que la vie a démarré sur Terre. Parmi les exoplanètes découvertes à ce jour, il y en a dans les 360 qui ont la taille similaire à celle de la Terre. Et enfin, il y a un dernier critère important qui est la distance à l'étoile. Il est facile de comprendre que si la planète est trop proche, il fait trop chaud et il ne peut y avoir que de la vapeur d'eau. Et à l'inverse, si elle est trop loin, il y fait trop froid et il ne peut y avoir que de la glace. Or, l'eau liquide est indispensable aux organismes vivants sur la Terre. Ces deux distances limites dépendent bien sûr de la puissance de l'étoile et sont donc différentes d'une étoile à l'autre. La zone située entre les deux, où pourrait potentiellement exister de l'eau liquide, est appelée la zone d'habitabilité de la planète. Et par facilité de langage, on parle parfois de planètes habitables, notamment dans les médias. Actuellement, on connaît 52 planètes telluriques situées dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Il y en a 21 Terre, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elles ont une taille similaire à la Terre, entre 3/4 et 1.5 fois la taille de la Terre. Une subterre qui est plus petite que ça, et 30 superterres qui ont entre 1.5 fois et 2.5 fois le diamètre de la Terre. Pour le moment, on ne sait souvent rien dire de plus à leur sujet. Elles sont juste d'une taille convenable et la bonne distance de l'étoile pour pouvoir posséder de l'eau liquide à leur surface. Mais ce n'est pas certain. Par exemple, dans le système solaire, 3 planètes telluriques sont dans la zone d'habitabilité, Vénus, la Terre et Mars. Et on sait très bien que seule la Terre possède un océan à sa surface. Il faut donc continuer d'étudier ces exoplanètes pour en savoir plus, et notamment avec les très grands télescopes qui seront mis en service dans les prochaines années, comme le télescope spatial JWST, un James Webb Space Telescope de 6,50 m que la NASA doit lancer en octobre 2018, ou l'IELT, European Extremely Large Telescope, de 39 mètres, que l'ESO devrait mettre en service au Chili en 2025. Avec ces très grands télescopes, donc recueillant une très grande quantité de lumière des étoiles visées, il devrait être possible de distinguer la toute petite différence entre le spectre de la lumière de l'étoile seule, ou légèrement modifié par la petite portion de cette lumière qui traverse l'atmosphère de l'exoplanète, quand elle en a une, lors du transit devant l'étoile. Et bien sûr, on cherchera d'abord à vérifier si cette atmosphère contient de l'eau, mais aussi de l'oxygène, car sur la Terre, il a été produit par des organismes vivants, et certains rêvent même qu'on pourrait un jour détecter de la chlorophylle, signe certain d'une présence de végétaux, donc de vie. Mais bien sûr, tout ça serait bien plus simple si ETI se décidait volontairement ou non à nous envoyer un petit message radio, ce qui s'est peut-être produit du côté de Ross 128.
Pour conclure, mais peut-être qu'ETI nous entend et qu'il nous répondra d'ici pas longtemps. Mais du coup, 2018 pour ce nouveau télescope, donc peut-être, c'est peu 2018, on aura
oui,
d'autres...
Il faut le temps de le mettre en service, de faire les mesures, de les vérifier. C'est quand même pas... C'est pas le lendemain du jour du... Et c'est le lancement, hein, 2018. Donc oui. C'est pas le jour où il deviendra opérationnel, c'est octobre 2018. Donc disons, tout ça, c'est plutôt pour les années 2020. En passage, pour compléter cette petite chronique, comme l'AFA a décidé du sujet Terres habitables pour les Nuits des Étoiles, dans leur revue, parce que l'AFA publie la revue qui s'appelle Ciel et Espace et qu'on trouve en kiosque, ils ont fait un numéro hors série ce mois-ci sur ce thème des Terres habitables. Donc j'invite les auditeurs qui voudront en savoir plus à éventuellement acquérir cette revue et lire les articles.
Et qu'est-ce que c'est la motivation des astrophysiciens de justement chercher une Terre habitable? C'est voir l'autre vie, la curiosité, ou c'est plutôt se dire quand la Terre sera trop abîmée, on ira vivre ailleurs?
Alors quand il faut dans les 100 000 ans pour atteindre la planète la plus proche de nous, ouais, c'est pas tellement le problème d'avoir une solution B si on continue à bousiller la Terre comme on le fait en ce moment. La motivation, je dirais qu'elle n'est pas des astrophysiciens, c'est la motivation des humains, parce que comme je l'ai un peu dit avec le rappel historique, ça fait des siècles les hommes s'interrogent sur la présence d'autres vies, d'autres intelligences dans l'univers. C'est quand même angoissant, quand on, surtout aujourd'hui, l'époque moderne, où on commence à avoir une bonne image de l'immensité de l'univers, même rien que de notre galaxie déjà, qui contient dans les 200 milliards d'étoiles, donc de soleil. C'est quand même un peu angoissant de se dire qu'on pourrait être la seule forme de vie existant dans cet immense ensemble. Ça paraît même relativement improbable. Donc la question, c'est... est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on pourrait un jour entrer en contact avec eux, voir, les rencontrer? Enfin, ça, c'est si eux viennent nous voir, parce que nous, on est complètement incapables d'y aller pour le moment. Mais ça, c'est pas pour les années 2020, c'est plutôt pendant les années 3000, 5000 ou 10 000, j'en sais rien, si l'humanité arrive encore à s'en tirer jusque-là.
A priori, on sera plus là pour en parler, en tout cas de nous. Voilà, sur
Radio. A priori, non, oui. Mais on peut y penser, c'est ça la grande puissance de l'esprit humain. Comme disait Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée, alors que par l'imagination, on peut embrasser l'univers dans sa totalité.
C'est une très belle phrase pour conclure. Merci Michel.
Merci Einstein.
Merci Einstein, oui. On va passer au ciel du mois.
Oui, alors comme tous les mois, je finis ma chronique en parlant un petit peu du ciel qui nous attend dans les prochaines semaines. Alors depuis fin juin, les jours ont commencé à raccourcir, mais les nuits viennent encore tard. En ce moment, le soleil se couche vers 21h30 et la nuit noire commence vers 23h. Fin août, ce sera nettement plus tôt. On gagne presque une heure avec un coucher vers 20h40 et donc une nuit qui intervient avant 22h, vers 21h45. Pour les constellations, je parle parfois des constellations, le plus simple est de consulter les cartes que nous mettons en ligne sur notre site web. Donc je rappelle www.constellationsetgalaxies.org. Il y a un choix dans le menu qui s'appelle Astronomie, dans lequel on trouve le ciel du mois. Et je crois d'ailleurs qu'on met souvent le lien sur le site d'Eau de Radio pour trouver directement les cartes du ciel valables pour le mois.
Sur Facebook d'Eau de Radio, oui. On va mettre le lien.
Alors, Pour faire rapidement, hein, sur le ciel de l'été, il s'organise autour de 3 étoiles brillantes qui forment ce qu'on appelle le triangle de l'été. Vega de la constellation de la Lyre, Altaïr de l'Aigle et Deneb du Cygne. Bien sûr, quand on est dans un endroit suffisamment noir, on peut voir la Voie lactée bien visible dans le Cygne et qui descend le long de l'Aigle jusqu'au Sagittaire, une constellation si facile à reconnaître du côté de l'horizon sud. De toute façon, les nuits des étoiles seront l'occasion d'apprendre ces constellations ou de les réviser à l'aide des astronomes amateurs qui ont l'habitude de montrer dans le ciel ces étoiles et les dessins des constellations.
Bien sûr.
Alors côté planète, en ce moment, c'est la très brillante Jupiter qui est encore visible le soir vers l'ouest, mais elle est déjà bien basse et se couche assez vite, vers minuit et demi en ce moment. Fin août, on ne la verra presque plus car elle se couchera en tout début de nuit. Il faut donc profiter des nuits des étoiles pour observer dans un télescope cette planète géante et ses 4 principaux satellites. Ensuite, on pourra, comme je l'ai dit, admirer les anneaux de Saturne, ce qui est impossible à faire dans une simple paire de jumelles parce que ça ne grossit pas suffisamment. Cette planète moins brillante est pratiquement au plus haut, plein sud, dès 23h en ce moment. Elle ne se couche que vers 3h30 du matin, donc elle est visible tout le début de la nuit. Elle sera encore bien observable pendant tout le mois d'août et se couchera fin août vers 1h du matin. Fin juillet, début août, hein, donc on est dans la période là, Mercure pourrait être aperçu le soir dans les lueurs du couchant, mais c'est une planète qui est toujours assez discrète, hein, c'est la moins brillante de celles qu'on peut voir dans le ciel. Elle est toujours dans les lumières du soleil, soit levant, soit couchant, donc pas facile à voir. Par contre, le matin, vers l'est, c'est la très brillante Vénus qu'on peut voir à partir de 4h environ en ce moment, et presque jusqu'au lever du soleil, tellement elle est brillante dans le ciel. Et ça restera à peu près de la même façon tout le mois d'août. Hein, on pourra voir Vénus le matin.
Donc il ne faut pas dormir, hein, Michel.
Il faut se lever tôt.
Allez, on finit par les éphémérides.
Voilà, donc un peu les événements, si on peut dire, du mois. Alors c'est souvent, hein, comme je le fais chaque mois, les conjonctions des planètes avec la Lune, c'est-à-dire le rapprochement. Vendredi soir, pour les nuits des étoiles, le gros croissant de Lune se rapproche de Jupiter dans le ciel, environ la largeur d'un pouce bras tendu, donc ce sera assez serré. Le mercredi 2 août, en soirée, la Lune gibbeuse, donc assez grosse, se rapproche de Saturne. Le matin du samedi 19, elle sera près de Vénus. Et le soir du vendredi 25, elle sera de nouveau près de Jupiter, mais beaucoup plus difficile à voir que cette semaine, car très basse à l'ouest. On la verra juste un peu avant le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, pardon. Et le mercredi 30, elle sera à nouveau, 30 août, hein, bien sûr, elle sera à nouveau près de Saturne. Alors, côté étoile filante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le maximum des deltas Quarides dans la nuit de vendredi à samedi, à observer plutôt après minuit quand la Lune sera couchée, donc un ciel plus noir. Et pour les Perséides, hein, plus connus, plus célèbres, hein, car animant le ciel d'été de mi-juillet à mi-août à peu près, leur maximum sera la nuit du 12 août. Et là par contre, il faudrait plutôt observer avant minuit et avant que la Lune se lève. Hein. Ce sera une grosse lune gibbeuse assez gênante pour voir les étoiles filantes. Et pour finir, deux phénomènes astronomiques dont on parlera probablement dans les médias, mais qui sont inobservables en France, qui seront une éclipse partielle de Lune le lundi 7 août, mais qui sera plutôt visible du côté de l'Asie, et surtout une très belle éclipse totale de Soleil le 21 août, bien observable le long d'une ligne qui traversera tous les États-Unis de la côte ouest à la côte est. Et donc pour conclure, hein, si la météo est au rendez-vous, j'invite tous les auditeurs à sortir observer le ciel à l'occasion des Nuits des Étoiles. C'est une manifestation à ne pas rater si on s'intéresse un petit peu à l'espace et au ciel.
En espérant qu'il fasse beau, mais bien sûr, il y a généralement beaucoup d'animations autour aussi. Hein.
Oui, voilà, il n'y a pas forcément que l'observation du ciel. Comme je disais, l'AFA propose une présentation sur les planètes habitables, mais il y a aussi pas mal de sites où on va parler d'autres sujets liés à l'astronomie. Il y a peut-être des expositions. Il faut aller voir le détail sur le site de l'AFA. Moi, j'ai repris que les rendez-vous de la région bordelaise et plutôt des rendez-vous d'observation, parce que c'est quand même, disons, la première motivation des astronomes, c'est de regarder le vrai ciel.
Bien sûr. Alors, merci pour cette chronique, la numéro 34. Et puis, on rappelle, Michel Favret, le site de Constellations et Galaxies, pour retrouver toutes ces informations en détail, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, notamment pour les heures d'observation et comment on peut observer toutes ces étoiles ou ces planètes dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Voilà, merci Michel. On conclut ou il y a autre chose à rajouter ?
Il y aurait toujours quelque chose à rajouter sur le ciel, c'est infini, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense.
On redit la citation d'Einstein, l'imagination.
L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, alors que par l'imagination, on peut embrasser tout l'univers.
Bon, j'aime beaucoup. Hein. Voilà, on va conclure là-dessus. Et puis,